le patient, les hôpitaux, la pharmacie et même les sapeurs-pompiers et vice-versa. Donc, Apollo permet de créer une base de données fiable à jour des Africains qui permettra de faire du knowledge management.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire appliquer les techniques de data science, machine learning et de l'intelligence artificielle pour produire une cartographie de la santé, visant à prévenir et à contenir les pandémies, endémies et autres maladies transmissibles et non transmissibles. Donc, Apollo facilite un déploiement de plusieurs campagnes de sensibilisation et de vaccination. Et aussi, nous avons une manière très efficace de gérer les ressources humaines disponibles parce qu'il faut savoir que nous sommes un des serves en Afrique.
Vous voulez dire que nous, les Africains, nous sommes mal desservis et c'est l'un des défis que veut relever Apollo.
C'est une plateforme qui touche à tout. Comme en Afrique, on ne le dira pas assez, on accuse une lenteur incroyable dans toutes les démarches administratives. Et eux ne pouvons que s'ajuster à cela en espérant l'améliorer. Mais Apollo en lui-même permet à tout individu lambda d'avoir déjà son healthcare record, je dirais son carnet de santé à portée de main, d'être connecté à un médecin direct et d'avoir accès à celui-ci à n'importe quelle heure parce que ce dernier n'aura pas à chercher. Il aura votre carnet médical et toutes vos informations en face de lui pour même lorsqu'il sera à distance, donner des conseils au médecin traitant qui sera présent ce jour-là.
Et ça, ça va forcément améliorer la santé en Afrique.
On évite la malpratique, comme on le dit en fait en français, ça, on permet d'éviter les erreurs médicales et consorts.
Est-ce que ça veut dire, Cheikh, que n'importe qui peut avoir accès à Apollo, tout le monde peut utiliser cette application?
Yes, tout le monde peut utiliser l'application.
Quand est-ce que l'application Apollo pourrait-elle être accessible au public?
À partir du 4 décembre, tout Africain, quelle que soit sa situation géographique, pourra télécharger l'application sur l'App Store et Google Play. Ensuite, nous avons la
campagne. Mais ça
campagne.
Sera coûteux?
Pardon?
Combien ça va coûter?
0 francs, parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est au-delà de notre personne. Nous ne cherchons pas à nous enrichir ici.
L'utilisation de l'application Apollo sera-t-elle gratuite?
C'est complètement gratuit. Notre objectif n'a jamais été de s'enrichir, mais d'aider l'Afrique à obtenir une place de qualité dans le Conseil des Nations. Nous avons des soutiens de taille à travers George Washington University, la National Science Foundation, qui est l'entité qui a rendu le rêve Google une réalité. En avant Amazon, AWS, Salesforce et bien d'autres. Donc la population africaine est notre priorité. Alors, ce service, cette application sera gratuite, entièrement gratuite pour l'Africain lambda.
Et vous étiez en train de parler d'une campagne de vaccination, laquelle?
Yes, nous avons une campagne Women Children.
Vous voulez dire la mère et les enfants en français?
C'est le nom de notre campagne qui sera lancée en janvier. À travers cette campagne, nous avons pour objectif de rendre la grossesse agréable.
Wow.
C'est-à-dire toute femme enceinte à compter de janvier 2020 pourra se faire suivre par un docteur et une sage-femme.
Grâce à Apollo?
Oui, grâce à Apollo tout au long de sa grossesse. Ceci permettra de réduire le risque des grossesses et plus loin de suivre la santé mentale de la mère parce qu'il y a des situations post-traumatiques après l'accouchement et tout.
Cela signifie-t-il que grâce à Apollo, les femmes seront suivies même après l'accouchement?
Pendant la grossesse et après la grossesse, la mère sera suivie. Vous savez que le pourcentage de la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne compte pour 62% du taux mondial et 50% des nouveaux-nés en Afrique subsaharienne. 50% des morts des nouveaux-nés dans le monde se retrouvent en Afrique subsaharienne. C'est pour lutter contre ce fléau que nous avons décidé de lancer cette campagne-là. Ça nous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et sachant que l'Afrique aura une population de 2,5 milliards, à l'aurait de 2050. C'est-à-dire qu'on aura pratiquement doublé notre population. Il faut qu'il y ait un suivi très, très précis de toutes ces grossesses. Il faut protéger la mère, il faut protéger l'enfant. Donc, cette campagne sera lancée à partir de janvier.
Concrètement, comment ça va se passer? Si le médecin est dans la capitale et puis la femme enceinte, elle est dans un village, comment est-ce que le suivi va se faire?
Comme je le disais tantôt, Apollo permet la distribution des ressources humaines sanitaires. Lorsqu'une femme, à travers l'application Apollo, déclarera qu'elle est enceinte, on lui donnera immédiatement toute sa liste de rendez-vous avec le docteur le plus proche.
Et le médecin aura déjà accès à toutes les informations de ses malades.
Le docteur qui sera le plus proche d'elle sera immédiatement affecté pour la suivre. C'est-à-dire qu'il aura son carnet de santé et tout à portée de main pour qu'il puisse faire des précisions et des analyses chaque jour.
J'aimerais savoir si la sage-femme est aussi impliquée dans ce processus et puis quel est le rayon de distance entre la patiente et le médecin. entre la femme enceinte, bien sûr, et le médecin.
Il y aura maintenant une sage-femme qui sera encore, nous essayons de mettre dans un rayon de 5 km pour qu'elle puisse vraiment être en amont de toute situation. Elles seront les premiers points de contact avec le docteur pendant le quotidien de la grossesse. Elle pourra contacter la sage-femme pour n'importe quel soin. Et lorsque la sage-femme se verra dans le besoin de partager avec le docteur pour qu'il puisse faire d'autres prescriptions, elle pourra le lui redire. Notre objectif, c'est d'assigner un docteur à chaque femme et une sage-femme qui sera très proche d'elle, qui la suivra pendant toute la grossesse.
Ça sera vraiment super. Hein. On attend le moment. Merci. Et puis on pourra discuter aussi avec les utilisateurs d'Apollo pour voir quelles sont les merveilles que ces personnes vont découvrir ou vont vivre grâce à Apollo.
Je serai ravi d'écouter le feedback.
Où est-ce qu'on peut utiliser Apollo en ce moment-ci?
Apollo, c'est venant des SCB Systems. L'objectif, c'est de servir l'Afrique. Donc, Apollo, pour apporter africaine, mais comme l'adage le dit, la charité bien ordonnée commence par soi. En tant qu'Ivoirien, nous avons commencé par la Côte d'Ivoire.
Quels sont les différents volets qu'on peut trouver dans l'application Apollo?
Avec Apollo, nous avons plusieurs volets. Nous avons le volet hôpital est tellement gigantesque. En ce moment, nous préparons l'implémentation d'Apollo dans un hôpital public en Côte d'Ivoire, centre hospitalier public. Pour cela, il va falloir revoir tout le backbone complet de la connectivité pour permettre aux hôpitaux africains d'être à la pointe. Nous sommes en Côte d'Ivoire, je pense aussi au Burkina.
Êtes-vous déjà en contact avec les autorités burkinabées?
Nous avons entamé avec le Burkina quelques conversations pour qu'on puisse mieux s'étendre dessus et voir comment nous pourrons lancer Apollo. C'est beau bien de dire, c'est bien beau le moderne, la mondialisation, mais il n'y a rien de meilleur que l'aspect local qui est en bonne cinétique et irréprochable. C'est-à-dire des Africains au devant des choses qui sont en train de mettre leur population, leurs frais en priorité pour une qualité de vie.
Pour réaliser tout cela, vous avez besoin de travailler aussi en collaboration avec les autorités. Comment se passe votre collaboration avec les gouvernements locaux et les autorités sanitaires des endroits où vous avez choisi de travailler?
Notre collaboration avec le gouvernement ivoirien se passe bien. Nous avons deux ministères en Côte d'Ivoire qui touchent réellement à notre domaine. Il s'agit du ministère de l'économie numérique et celui de la santé. Ils ont été très heureux de la solution Apollo. J'ai été en Côte d'Ivoire en juin passé.
Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays, mais j'aimerais savoir si vous avez un contrat avec les autorités ivoiriennes.
Apollo est multidimensionnel. L'importance que donne le ministère de l'économie numérique, qui a plus d'expertise technologique, est très, très encourageante. En Côte d'Ivoire, le président, son excellence Ouattara, a une politique tournée vers la jeunesse. C'est dans cette logique que le premier ministre, le ministre des Affaires présidentielles, encourage toute innovation portée par la jeunesse et bien sûr par la diaspora que nous représentons. Nous sommes en phase de signature d'une convention très bientôt avec le gouvernement ivoirien. Avec le Burkina, comme je l'ai dit tantôt, nous entamons la communication.
Est-il facile de gérer toutes ces initiatives?
Ce n'est pas facile d'être africain. Proposer une solution aux normes internationales qui est déjà censée aux États-Unis. Il y a des sociétés très puissantes qui seront immédiatement concurrentes, sachant qu'elles ne proposent jamais des solutions adéquates. Nous sommes les seuls à mesure de régler le mot africain. Il ne s'agit pas de calmer, mais de guérir. Nous avons plus de chances de trouver la racine de nos mots que quiconque qui n'a jamais vécu en Afrique. La pratique apporte une expérience différente de la théorie. Nous voyons plusieurs institutions internationales qui vont en Afrique, qui disent qu'elles ont des solutions pour régler, mais l'Afrique ne change jamais. Le philosophe Socrate l'a dit, « The measure of a man is what he has with the power. » Qu'est-ce qu'un homme fait lorsqu'il est en position de pouvoir?
Et pour vous, offrir Apollo aux Africains, c'est leur offrir un certain pouvoir.
Je suis rassuré que chaque Africain, à travers votre canal, adoptera Apollo en décembre et effectuera le bilan annuel de santé à moindre coût que nous proposons. C'est 1,3 milliard d'habitants. C'est l'Eldorado. Il faut qu'elle soit en bonne santé pour que nous puissions entamer cette phase de développement. Je tiens tous à cœur.
En dehors de la campagne de la femme enceinte, pour qu'elle soit bien suivie, quels sont d'autres projets que vous comptez mener grâce à Apollo?
Déjà, avec Apollo, le bilan annuel de santé se fera à travers Apollo à moindre coût. Je pense que nous en avons déjà parlé et notre solution, c'est de vulgariser le bilan de santé. Nous voulons amener chaque Africain à connaître son état de santé. À partir de décembre, dès que l'application pourra être téléchargeable, en Côte d'Ivoire, bien sûr, pour un départ, nous aurons en charge tous les éléments disponibles pour chaque Ivoirien déjà faire son bilan de santé.
L'application Apollo s'intéresserait-elle aussi à la couverture maladie?
Lors de notre dernier séjour en Côte d'Ivoire, nous avons discuté avec la CMU, la couverture maladie universelle qu'ils ont en place là-bas. Je pense que en ce moment, il faut une couverture plus totale. Apollo peut régler cette situation en un rien de temps. Nous allons nous pencher sur ce cas parce que il serait très, très agréable de voir tout Ivoirien assuré et à mesure de se soigner à moins de coûts. Voilà un peu qu'est-ce que nous avons en phase en ce moment pour développer tout.
Comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique, il y a beaucoup de pays. En combien de temps comptez-vous couvrir le reste de l'Afrique ou un minimum de pays africains?
L'Afrique de l'Ouest, dans notre planification, doit être couverte sous 6 mois. Lorsqu'on dira le mois de mai, on aura couvert la majorité des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, de là, nous allons aller vers l'Afrique australe et l'Afrique du Sud. L'Afrique subsaharienne est la partie la plus touchée, donc nous allons la couvrir en entièreté avant d'aller en Afrique du Nord.
Est-ce que vous êtes intéressé à vous engager dans des partenariats avec d'autres structures?
Nous sommes vraiment ouverts à travailler en collaboration avec tout gouvernement intéressé qui voudra bien mettre son peuple et le bien-être de son peuple au centre de sa politique de développement.
Pourquoi avoir donné à l'application le nom Apollo?
Apollo, en grec ancien, le dieu grec le plus puissant. D'ailleurs, il est considéré comme le dieu de la santé aussi. Donc, Apollo, pour nous, couvrait complètement assez notre objectif de couvrir l'Afrique, d'améliorer la santé. Mais plus loin, je peux vous donner une anecdote. Mon meilleur ami Ismaël Grandbouté, nous lui avons donné un petit nom, Papalo. Apollo et Papalo rimaient ensemble et donc nous avons opté pour Apollo.
Quel est le processus de mise à disposition d'une application mobile en santé? Combien ça vous a pris le temps?
Bon, en général, tout d'abord, il faut avoir une raison pour la création d'une application mobile en santé. Ensuite, il y aura 5 étapes que je définis comme la validation du modèle de business.
Et quelles sont ces 5 étapes?
L'étape de la confirmation des fonctionnalités, l'étape du design de l'application, l'étape de l'élaboration de la sécurité et de la conformance aux lois en vigueur dans chaque pays, et l'étape du développement de l'application pour terminer. Avec nous, Arlo, nous sommes maintenant à 19 mois en fait de développement. Nous avons pu avoir la chance d'avoir différents dons de la part d'Amazon, 100 000 dollars par-ci, 50 000. Nous avons été chanceux d'avoir un produit qui fait l'unanimité. À George Washington University, le directeur de l'innovation était juste ému. Il dit « Wow, c'est so big ». On dira que c'est une chance d'avoir un truc qui est, pour le moment, l'innovation la plus adaptée aux problèmes africains.
Est-ce que vous êtes vous-même satisfait de ce que vous réalisez à travers Apollo?
Simplement satisfait, je suis à 100%. Je peux le dire en anglais si possible.
Oui.
I have all my heart, I yes. How my heart is like based on like Apollo. I wanted to make it successful
donc,
and everything.
Vous êtes entièrement dévoué à Apollo. Votre cœur est entièrement dévoué à Apollo.
Yes.
Et vous voulez que ça marche.
Yes.
Et vous voulez vraiment que ça réussisse.
Yes. Bon, je sais que ça marchera vu que c'est imminent. Et en plus, la chose la plus importante, c'est que c'est vital pour l'Afrique. C'est vital pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique puisse embrasser Apollo et nous serons tous heureux du résultat.
Merci beaucoup, Cheikh. Ça a été un plaisir de vous entendre répondre à nos questions.
Ce fut un plaisir, toujours heureux de partager des moments avec vous. Merci beaucoup.
Vous venez de suivre Sekou Cheikh Bomba, PDG de CBS System, doctorant en ingénierie management et surtout inventeur d'Apollo, une application qui facilite la télésurveillance et la téléconsultation des malades. À présent, nous vous invitons à suivre Carnet de Santé.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, l'épuisement professionnel ou burn-out se fait ressentir chez certains agents de santé en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus. Le docteur Monalisa Muchatuta, médecin urgentiste à New York, nous en dit plus sur l'épuisement professionnel dû au Covid-19. Et une école privée au Kenya ouvre ses portes pour soutenir les mamans adolescentes et leurs bébés. De plus, le beurre de karité, aussi appelé l'or des femmes, a le vent en poupe en Occident au profit des productrices en Afrique. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bienvenue, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Stress, anxiété, frustration et épuisement professionnel sont des sentiments courants auxquels sont confrontés de nombreux agents de santé en première ligne de la pandémie de COVID-19. Le burn-out ou l'épuisement professionnel est un ensemble de réactions consécutives à des situations de stress professionnel chronique. Ce phénomène concerne de nombreuses professions, cependant, selon les experts, les travailleurs de la santé semblent y être particulièrement vulnérables. L'épuisement professionnel peut avoir des conséquences personnelles négatives, telles que la toxicomanie et même le suicide, mais également des conséquences professionnelles importantes, notamment une qualité réduite des soins aux patients. Certains infirmiers et infirmières doivent affronter la dure réalité de l'augmentation des cas d'infection, des morts qui s'accumulent, tout en observant la distanciation avec leurs proches. Des conditions de travail et de vie qui engendrent diverses formes de problèmes mentaux, comme nous l'explique Mohamedou Humfa.
Le rôle des infirmières et infirmiers dans la lutte contre le COVID-19 n'est plus à démontrer. Ils sont au contact quotidien et assurent le suivi des personnes contaminées et hospitalisées dont le nombre ne cesse d'augmenter. Cependant, le Conseil international des infirmiers s'inquiète des risques liés à cette exposition prolongée aux patients du COVID-19, notamment sur leur santé mentale.
Nous avons d'abord demandé à nos associations nationales d'infirmiers l'an dernier combien de leurs membres signalaient des préoccupations concernant leur santé mentale. Ce chiffre est passé de 60% à 80% de nos associations nationales déclarant qu'elles recevaient des rapports sur des problèmes importants de santé mentale de leurs infirmiers et infirmières.
Des problèmes divers qui vont de l'anxiété au stress en passant par des difficultés à dormir.
Aux États-Unis, par exemple, une étude montre que 93% des infirmiers signalent des symptômes de stress. En Espagne, 80% souffrent d'anxiété et certains de symptômes de dépression. Au Japon, au cours des derniers mois de l'an dernier, 15% ont quitté leur boulot à cause de la maladie et de l'épuisement professionnel.
De nombreux cas de contamination ont été enregistrés parmi les infirmiers et infirmières, un groupe à haut risque de transmission du virus. Le Conseil international des infirmiers s'inquiète de la dégradation des conditions de travail de ses membres et des risques que cela pourrait avoir sur les ressources humaines et le suivi des patients.
Nous sommes entrés dans cette pandémie avec une pénurie de 6 millions d'infirmiers. Ajoutez à cela le nombre d'infirmiers qui vont prendre leur retraite dans les prochaines années, soit 10 millions. L'effet du coronavirus en termes de maladie et d'épuisement professionnel d'infirmiers pourrait nous faire perdre 13 à 14 millions d'entre eux.
Le Conseil insiste sur la nécessité d'accorder la priorité aux infirmières et infirmiers lors des campagnes de vaccination contre le COVID-19. Il ajoute que les gouvernements et employeurs doivent améliorer leurs conditions de travail, ce qui passe par de meilleurs salaires et équipements, ainsi qu'un accompagnement psychosocial.
Je me suis entretenue avec le docteur Monalisa Mucha-Tuta, médecin urgentiste à New York. Elle nous décrit l'épuisement professionnel dû à la pandémie de COVID-19.
En avril, les choses étaient terribles et je pense qu'il y a beaucoup d'endroits en Afrique actuellement qui vivent en quelque sorte ce que nous avons vécu en avril, où les patients arrivaient par horde. Et le désastre était que nous ne savions pas avec quoi nous travaillons. Donc, vous savez, la salle d'urgence était pleine de patients en soins intensifs, tous à la fois nécessitant le plus haut niveau de soins, des ventilateurs et un maximum d'oxygène. Nous avons encore un gros volume. Nous sommes un peu plus rassurants pour les patients car nous savons maintenant à quoi nous sommes confrontés. Et nous avons aussi moins peur, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains. Alors que je prends soin d'un patient, je sais que tant que je suis protégée, je peux mieux prendre soin de vous qu'en avril. J'avais peur pour moi et ma famille en essayant de prendre soin des patients. La pandémie a été extrêmement stressante pour tout le monde. Et pour nous, vous savez, nous ne le faisons pas en tant que médecins. Je pense que nous avons simplement eu la chance d'être dans un endroit où nous pouvions aider les gens. L'épuisement professionnel est donc réel. Je veux dire, pendant toute l'année 2020, beaucoup de vacances ont été annulées. Vous savez, parce que nous sommes au milieu de cette pandémie, le nombre de patients était élevé. Donc, même si vous aviez prévu des vacances, vous n'étiez pas autorisé à les prendre. Comme vous pouvez l'imaginer, si vous travaillez une année entière, comme l'année 2020, et que vous n'étiez pas en mesure de prendre des vacances, vous vous sentiriez certainement un peu fatigué et épuisé. Janvier nous a apporté des bonnes nouvelles. Le vaccin est venu et cela a apporté beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens dans le sens où, même si nous nous sentions extrêmement fatigués, extrêmement épuisés émotionnellement à cause de tout le chagrin, la douleur et les choses que nous avons traversées, ce vaccin est venu et a apporté de l'espoir. Et nous avons donc bon espoir. Et maintenant que les chiffres commencent à être un peu meilleurs, si nous pouvons faire vacciner les gens, nous pourrons peut-être retourner à notre vie quotidienne. Nous avons dû faire preuve de créativité pour aller à l'extérieur. Vous partez en randonnée, vous utilisez Internet, vous parlez aux gens que vous avez sur vos réseaux sociaux, vous évacuez vos sentiments. Et j'ai fait pas mal de ça pendant ce temps et même maintenant. Si j'ai des problèmes, je les partage et je trouve d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes et qui espèrent s'en sortir. Mais l'exercice aide. Parler à vos amis aide à évacuer. Il y avait beaucoup de pleurs dans les nuits blanches d'avril. Mais nous savons ce qui se passe maintenant. Je pense qu'il y a d'espoir. Nous nous sentons un peu plus optimistes ces jours-ci. Je suis complètement vaccinée. J'ai donc eu mes deux doses de vaccin. Alors oui, pour moi, ça aide. Je ne pense pas que la baisse des chiffres ait été une chose protectrice pour moi. Car si les chiffres diminuent, c'est une maladie que vous pouvez attraper simplement en marchant dans la rue, en parlant à quelqu'un, même à travers les personnes qui vous aiment. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un et dire qu'il est protégé. Donc je pense que le niveau d'anxiété est toujours là.
Une école privée a ouvert ses portes dans le centre du Kenya pour les filles enceintes, les mères adolescentes et leurs bébés afin de s'assurer qu'elles reçoivent une éducation malgré la stigmatisation. Les grossesses d'adolescentes au Kenya ont explosé pendant la pandémie de COVID-19, due notamment à la fermeture des écoles. Brenda Moulinia nous a envoyé ce reportage de Nairobi. Le récit est de Blanche Sanou.
Lorsqu'à 16 ans, Jacqueline est non d'emprunt et tombée enceinte, elle a presque abandonné l'école comme la plupart des jeunes mères. Mais heureusement, elle a trouvé Sérénée à Vent School, la première école privée du Kenya pour les adolescentes enceintes, les mères adolescentes et leurs bébés. Le centre a ouvert ses portes au début du mois de janvier.
Quand vous êtes dans une classe avec des gens qui ont des points communs, vous êtes toutes dans la même situation. Ce n'est plus difficile. Vous êtes capable de vous concentrer car tout le monde a le même défi. Parce que vous êtes sûr que votre bébé est en sécurité, il est avec la nanny. Après les cours, vous retrouvez votre enfant.
Les étudiantes de Sérénée à Vent sont tombées enceintes ou ont accouché pendant le confinement de l'année dernière. Une période qui a vu une augmentation des grossesses d'adolescentes au Kenya, estimée à environ 40%. Dans le district de l'école Nyeri centrale, les responsables affirment que l'augmentation des grossesses chez les adolescentes a été un choc.
En 2019, nous parlions d'un ou deux cas, mais en 2020, nous parlions de centaines de cas et nous en connaissons déjà la raison.
Les autorités kenyanes accusent les étudiants de ne pas reprendre les cours qui ont démarré ce mois-ci pour la première fois depuis mars 2020. La fondatrice et directrice de Sérénée à Vent, Lise Muriki, a déclaré que son objectif est de faire en sorte que les adolescentes reçoivent une éducation sans stigmatisation.
Cette école répond à un besoin et à un vide que la société avait si longtemps négligé parce que quand une fille tombe enceinte, elle est automatiquement pointée du doigt.
Ruth Kirimi, tutrice de l'une des élèves, dit que Sérénée à Vent aide également les jeunes mères à reprendre confiance en elles-mêmes.
Ils prennent une fille et lui disent « Hé, tu as du potentiel, tu es bien, malgré ta situation, nous te donnons une seconde chance ».
Même avant la pandémie de COVID-19, le Kenya avait du mal à réduire les grossesses chez les adolescentes. Selon le rapport mondial sur l'enfance 2019 de Save the Children, le Kenya a le troisième taux de grossesse d'adolescentes en Afrique de l'Est après la Tanzanie et l'Ouganda.
Nous sommes arrivés à la fin de Votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la télésurveillance des patients avec notre invité, Sekoushek Bomba, PDG de CBS Systems en Virginie aux États-Unis, avec une filiale en Côte d'Ivoire. Sekou Cheikh Bomba est aussi doctorant en ingénierie management et il a inventé Apollo, un outil important qui facilite la téléconsultation et la télésurveillance des patients et favorise aussi la promotion de la santé en Afrique. Après, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Linor Moudou. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Tiro. À la présentation, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.